Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Lionel Follet, qui a établi, présenté et annoté les lettres d'Aragon à André Breton, 1918-1931, publiées chez Gallimard. Qui en finira d'avec l'autre? Un jour, nous nous tuerons à mort. Longtemps, Lionel Follet, vous avez été universitaire, vous avez enseigné la littérature et la linguistique. Aujourd'hui, vous appartenez à l'équipe de recherche interdisciplinaire sur Aragon et Elsa Triolet. D'Aragon, vous avez publié déjà l'édition renouvelée de La Défense de l'Infini, qui a été publiée chez Gallimard en 1997 et puis ensuite en 2002. Ainsi que Papier inédit 1917-1931 avec Édouard Ruiz, c'est encore chez Gallimard et ça c'était en 2000. Aujourd'hui, voici 170 lettres d'Aragon à André Breton. 170 lettres inédites.
Des lettres inédites, effectivement, et des lettres dont on connaissait, dont on supposait l'existence, mais personne ne savait où elles étaient. Ce que l'on savait, c'est que André Breton les a vendues peu de temps probablement après la rupture avec Aragon, et on ne savait pas ce qu'elles étaient devenues. Elles étaient en fait au fond Doucet, à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, où elles avaient été déposées par une collectionneuse, qui avait été donc l'une des intermédiaires. Elles étaient au fond Doucet, mais n'étaient pas cataloguées. Elles étaient sous un numéro d'inventaire. Et donc, personne ne soupçonnait qu'elles étaient là. J'ai vu surgir sur mon écran d'ordinateur, la mention de ces lettres en 2006. Et bien entendu, je me suis précipité, j'ai découvert que c'était un trésor, et j'ai alerté Jean Rista, l'héritier d'Aragon, qui m'a confié l'édition de ces lettres.
Donc vous êtes l'inventeur du trésor.
Oui, mais vraiment, je n'ai pas fait exprès. Disons que j'ai simplement, j'ai mené ce que l'on pourrait nommer une veille informatique. Voilà.
Et cette correspondance a répondu à la surprise et l'attente qu'on pouvait en avoir.
Oui, certainement. À la fois, cette correspondance dévoile, confirme plutôt un portrait d'Aragon que l'on connaissait déjà, mais elle ajoute évidemment énormément au niveau des circonstances, au niveau du détail, mais pas seulement du détail. Le portrait d'Aragon en est, oui, certainement creusé, modifié, et puis c'est bien entendu un document extraordinaire pour la naissance de ce qui sera le surréalisme. Il y aura le mouvement Dada, il y aura le surréalisme.
C'est une correspondance qui commence en mai 1918, quand André Breton est envoyé comme infirmier à Moret-sur-Loing. Alors qu'Aragon, lui, reste au Val-de-Grâce, où ils s'étaient rencontrés tous les deux.
C'est cela. Et tous deux sont donc étaient étudiants en médecine, et tous les deux sont affectés au Val-de-Grâce pour devenir ce qu'on appelait médecins auxiliaires. Breton n'a pas été reçu à cet examen, c'est pourquoi on l'envoie à Moret-sur-Loing, et Aragon se porte volontaire pour partir au front. Aragon sera au front à partir de juin 1918, et verra la guerre de très près comme médecin auxiliaire.
Faut préciser qu'Aragon est légèrement plus jeune que Breton, et c'est une différence d'âge que vous notez comme n'étant pas anodine.
Oh, ça n'est certainement pas anodin. À cet âge-là, vous savez, Aragon est né en 1897, Breton un an plus tôt. Il y a une différence, nous pourrions dire, de deux années scolaires entre eux. Mais la différence d'âge est redoublée par l'envergure de Breton, les rencontres littéraires qu'il a déjà faites. D'autre part, son autorité naturelle, son ascendant qui est évident sur Aragon.
À cette époque-là, Breton connaît déjà Jean Royer, Paul Valéry, Guillaume Apollinaire Pierre Reverdy.
Reverdy.
Donc ce qui compte.
Ce qui compte énormément. Breton dira par la suite qu'Aragon était beaucoup plus sage. Aragon était tout de même déjà un lecteur passionné de Rimbaud, par exemple, et Aragon était cet homme que Breton décrira par la suite comme ayant tout lu, ayant une culture extraordinaire. Ils communient tous deux sur, par exemple, la lecture de Rimbaud, il est clair que Breton, d'emblée, exerce sur Aragon un ascendant intellectuel.
Aragon ne peut pas se prévaloir de telles relations.
Pas encore. Il a fréquenté la librairie d'Adrienne Monnier. Il est beaucoup plus orienté vers Jules Romain à cette époque. Et grand lecteur de la tradition, lecteur de Villon, par exemple. Il vient d'un autre horizon, mais très vite. Autour, je pense, de la fraternité autour de Rimbaud, très vite, leur accord s'établit en quelques jours.
Adrienne Monnier le décrit pourtant comme un jeune homme très sage.
C'est vrai. Elle dit il était à cette époque beaucoup plus sage que n'était Breton. Oui. Mais elle parle là de 1916-1917. Elle parle de la période où Aragon et Breton ne se connaissaient pas encore, Aragon était un tout jeune lycéen en 1916, il a commencé le PCN, un tout jeune étudiant en tout cas. Aragon fréquente la librairie d'Adrienne Monnier, il y croise probablement Breton, mais ils ne se connaîtront qu'au Val-de-Grâce en 1917.
Alors vous disiez que c'était Rimbaud un peu qui faisait le lien entre ces deux hommes, mais est-ce que Breton va reconnaître tout de suite le poète en Aragon ?
Certainement, oui. Oui, il est clair que Breton a reconnu, il le dit d'ailleurs, il l'écrit à son ami Théodore Frankel, il est vraiment un poète, les yeux levés très haut, dit-il, c'est à peu près la formule. Il reconnaît le poète, quand je disais il y a un instant que Breton exerçait un ascendant certain sur Aragon, cela ne signifie pas une inégalité à tout point de vue. Je pense que tous deux se parlent d'égal à égal quand il s'agit de poésie, par exemple, et c'est très très net, mais ça c'est par la suite, dans les lettres qu'ils échangent, chacun, semble-t-il, critique les poèmes de l'autre, et c'est très clair que Aragon, à ce moment-là, parle d'égal à égal en poète.
D'ailleurs, vous citez Aragon après coup, en 1967, dans les Lettres françaises, dans ce texte « Lautréamont et nous », qui dit « Nous avions tous les deux très rapidement compris que notre rencontre avait pour l'un et l'autre une importance décisive, comme cela peut être à 20 ans ».
C'est cela. Oui.
Il y a un troisième homme qu'il ne faut pas oublier.
Oui.
Dieu sait qu'il sera important pour la naissance du surréalisme, c'est Philippe Soupeau.
C'est Philippe Soupeau, effectivement. Et on est surpris, en lisant les premières lettres d'Aragon à Breton, on est surpris d'un ton qu'Aragon adopte vis-à-vis de Soupeau, en le traitant de ce jeune et faible ou quelque chose comme cela, en essayant assez habilement d'ailleurs de le mettre un peu à distance par rapport à lui. Je crois que c'est à la fois important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux, trop longtemps. Soupeau était certainement plus à côté qu'Aragon. Il n'est pas dans la fraternité avec Breton, il est dans la complicité, oui. Mais par exemple, Breton et Soupeau ne se tutoient pas, alors qu'Aragon, immédiatement, et Breton se tutoient. Soupeau garde à ses Aragon, c'est Breton qui le dira, Soupeau a gardé quelque chose d'un peu lointain et d'aéré. En fait, Soupeau gardait ses distances, et ce sera vrai également à l'époque du surréalisme, alors que le rôle de Soupeau dans Dada à Paris et dans le surréalisme est capital, Soupeau garde un certain quant à soi. Aragon a apprécié certainement Soupeau. Là, je crois qu'il faut insister peut-être une minute. Ces lettres pourraient donner l'image d'un Aragon ennemi de Soupeau, ce qui n'est pas le cas.
Il y a beaucoup de réticences.
Il y a des réticences, c'est certain. J'ajouterais simplement qu'à la fin de leur vie, Aragon et Soupeau se sont retrouvés très fraternellement. Alors que Breton n'avait pas pardonné à Soupeau des épisodes ultérieurs au temps du surréalisme. Mmh. Je crois que, oui, il y a quelque chose qui est très, très facile à comprendre dans un groupe comme celui-là, avec un homme qui a l'ascendant qu'a Breton, il y a une opposition, à savoir qui sera le disciple préféré. Aragon se voit comme le disciple préféré.
En tout cas, dans le trio, c'est Breton, c'est clair, qui occupe la position dominante. Et lorsqu'on lit les lettres d'Aragon, on est frappé de constater à quel point il intériorise cet ascendant de Breton.
Oui. Il l'intériorise au point de donner raison à Breton contre sa propre pensée. Il l'écrit plusieurs fois dans les lettres, deux fois très très nettement, en ajoutant « Je suis prêt à te suivre, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. » Il s'agit là des prémices du mouvement Dada. Et « Je suis prêt à te suivre, et pourtant... » J'ai des réticences, tu n'en trouveras pas un comme moi, ça vise encore Soupeau, vous savez, je pense. Il y a une confiance totale d'Aragon en Breton comme chef, on pourrait dire chef de groupe, c'est réducteur, mais c'est un peu cela.
Et de temps en temps, il lui arrive de se rebeller, un peu, même s'il finit par se soumettre et par proclamer son allégeance.
Exactement, oui. Il le fait d'ailleurs de façon très amusante. Il tend des pièges à Breton. Il lui envoie un article, que nous n'avons pas malheureusement, qui n'est pas dans les lettres, où il le provoque sur l'avant-gardisme, pourrait-on dire. Et puis par la suite, alors que Breton proclame sa toute-puissance théorique, Aragon lui envoie, à la fois semble lui donner raison, et lui envoie un petit poème, Rondeau de l'omnipotence, qui est un rondeau, cette forme la plus désuète qui soit, troussé de façon extraordinaire par Aragon, et qui, bien entendu, est un coup de patte au vœu d'omnipotence de Breton. C'est amusant, effectivement. Nous parlons là des années 1918-1919. Il est clair que...
Quand Aragon revendique le rôle de brillant second.
De brillant second, de meilleur disciple, effectivement.
Donc une relation affective entre ces deux hommes plutôt complexe.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ces lettres, et là j'avoue que chaque lecteur est devant ces lettres et ne peut que s'interroger sur le ton passionné, en tout cas des lettres d'Aragon, puisque bien entendu il n'y a là que les lettres d'Aragon. Il n'y a pas l'autre versant qui est presque entièrement perdu. Ce sont des lettres passionnées, ce sont des lettres d'amitié passionnées qui ont parfois presque le ton d'une lettre d'amour. Et l'on voit Aragon à un moment où il a cru que Breton le délaissait, l'abandonnait, c'est un épisode qui était déjà connu, mais que l'on retrouve ici, l'on voit un Aragon désespéré, et écrivant à Soupeau d'ailleurs, c'est à Philippe Soupeau qui l'écrit, pour essayer de trouver un appui, et en lui disant à propos de ses sentiments pour Breton, « Que voulez-vous, je l'aime, comme on dit dans les livres ». Ce qui est quand même une formule assez extraordinaire.
C'est donc une quête constante pour Aragon de cette amitié qui, pour lui, n'est jamais assurée.
Effectivement, et je pense que c'est cela, nous parlions du portrait d'Aragon qui ressort de ses lettres, c'est quelque chose que l'on retrouvera dans toute la vie d'Aragon, la jalousie, l'élan passionné vers l'être aimé.
L'hypersensibilité.
Une hypersensibilité, c'est certain. Aragon fondant en larmes, bon, ça n'est pas tout à fait dans les lettres, mais c'est un témoignage qu'on a de la part de plusieurs surréalistes.
On assistera même à une rupture temporaire en décembre 1918 jusqu'en janvier 1919.
Oui, c'est à cette rupture que je faisais allusion, et c'est à propos de cela que Aragon écrira un peu après, juste avant de se réconcilier avec Breton, écrira « Que voulez-vous, je l'aime », comme on dit dans les livres. Rupture où Cocteau joue son rôle également, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans des lettres que j'avais publiées d'ailleurs dans les papiers inédits. À ce moment-là, Aragon est en relation avec Cocteau, épistolaire. Aragon est toujours mobilisé, il est en Alsace puis en Sarre, occupé, et il correspond avec Cocteau, et il écrit d'ailleurs à Cocteau... J'aime André Breton, qui ne m'aime pas. On est dans cette relation extrêmement ambiguë, effectivement, très ambiguë sûrement dans la cour un peu que Cocteau fait à Aragon.
Et c'est au lendemain de cette première rupture qu'Aragon écrira cette phrase que j'ai lue pour ouvrir l'émission, « Un jour, nous nous tuerons à mort ».«
Un jour, nous nous tuerons à mort ». Cela découle de... Alors c'est un écho en fait à quelque chose que Breton a dit le premier. C'est un écho à cette fameuse conversation dans le jardin des Tuileries, où Breton, qui est à ce moment-là lancé dans cette volonté d'en finir avec la littérature, d'en finir avec l'écriture comme exercice. Breton propose à Aragon, toujours comme au meilleur disciple, cette entreprise, et l'imagine comme un peu comme la bande à Bonneau, comme ces anards de l'époque, où il faut être absolument fidèle, et où ceux qui ne sont pas fidèles, on les abattra sans pitié. C'est Breton qui emploie ces images, et c'est repris également dans L'Autréamont et nous, le texte auquel vous faisiez allusion. Aragon raconte effectivement cette conversation qui a eu pour lui et pour Breton certainement une très grande importance. Et donc nous nous tuerons à mort, c'est la fin logique. Après qu'on aurait éliminé tous les infidèles, lequel restera fidèle finalement à l'idéal initial.
Vous citez L'Autréamont, Lionel Follet, et justement, rupture ou pas, les lettres montrent entre les deux hommes un certain nombre de dissensions. Et par exemple, il y a cette question de savoir qui fut le découvreur de L'Autréamont.
Oui. Alors ici, je pense que c'est très clair d'après ces lettres et d'après aussi des documents extérieurs. En fait, Breton et Aragon ont certainement découvert L'Autréamont en 1918, fin 17 ou 1918, et par l'intermédiaire de Soupeau. Le vrai découvreur, c'est Soupeau.
C'est toujours le troisième homme.
Oui, toujours lui. Et ce qui se passe, c'est que dans ce texte, L'Autréamont et nous, qu'Aragon écrit en 1967, il raconte, de très bonne foi, j'en suis sûr, une histoire qui est une histoire recréée. Mais comme tout ce qu'Aragon a écrit, on touche là, bien bien au-delà des lettres, à quelque chose qui est le mode d'existence et d'écriture d'Aragon, cette sorte de fabulation, non pas affabulation, mais fabulation, C'est Breton qui dit cela encore, la fabulation magico-romanesque dont était capable Aragon. Toute sa vie, Aragon a écrit, réécrit son histoire intellectuelle. Et donc, dans L'Outre-Amont et nous, de très bonne foi, il pense avoir été celui qui a fait découvrir L'Outre-Amont à Breton. Non, on sait maintenant que ça n'est pas cela, ce qui n'ôte rien, bien entendu, à l'intérêt d'Aragon pour L'Outre-Amont. Mmh. L'Outre-Amont a compté énormément pour Aragon, et quelques-uns de ses grands textes concernent L'Outre-Amont, y compris ce L'Outre-Amont et nous, qu'il faut prendre comme un discours mémoriel poétique en même temps.
Il y a un autre point sur lequel les dissensions entre eux vont surgir très tôt, c'est la question du roman, de l'écriture romanesque.
Effectivement. Et cela, on le savait, ça a été dit à propos de La Défense de l'Infini, par exemple, à propos de l'écriture du Paysan de Paris, même, qui n'est pas un roman. Mais Breton, d'emblée, méprise le genre romanesque ou s'en méfie. Le Breton fait sienne très volontiers la formule de Valéry, comment peut-on écrire la marquise sortit à 5 heures, quel arbitraire et quel... Et comment peut-on écrire des descriptions? Breton, vous le savez, dans Nadja, tourne la difficulté en mettant des photos à la place des descriptions. Or, Aragon, et dès 1918, Aragon est en proie à ce qu'il nommera par la suite la volonté de roman, et l'idée que le roman est un outil extraordinaire pour dire, pour s'expliquer le monde et s'expliquer soi-même. Et donc, la dissension éclate, effectivement. Il ne faut pas non plus voir en Breton le censeur qui interdit absolument à Aragon d'écrire un roman. Mais il est de fait que dans l'aventure de La Défense de l'Infini, par exemple, la réprobation de Breton a joué, même si ça n'est pas à cause de lui qu'Aragon a voulu détruire.
Et pourtant, il y a eu un projet d'écriture à deux voix alternées d'un roman. Oui. D'une héroïne baptisée Matisse.
Matisse, effectivement. C'est très étrange et je me demande encore comment Aragon a réussi, à vendre ce projet à Breton, c'était lors d'une permission, connaissant les réticences de Breton devant le genre. Mais tout de même, c'était une entreprise qui n'était pas du tout un roman traditionnel, puisque Aragon devait écrire... Aragon écrivait en premier le second chapitre qui était un portrait de Matisse. Et à la suite de cela, Breton devait reprendre au vol mais écrire le premier chapitre qui aurait introduit l'intrigue. Inutile de dire que ça n'a jamais dépassé le second chapitre écrit par Aragon.
Et qui va paraître d'ailleurs dans Le Libertinage en 1924.
C'est cela qui va devenir cette nouvelle Madame à sa tourmente. Oui.
Autre point de dissension, sans doute, le manifeste Dada de 1918. Oui. Tous deux ne partagent pas le même enthousiasme.
Oui. Ici, je nuancerai peut-être. Dissension, disons que Breton est en avance, constamment, par rapport à Aragon. Lui donne raison, ou lui dit, tu as peut-être raison, mais je vais mon train. Par exemple, à propos de ce manifeste Dada, et à cette époque-là, il dit à Breton, moi j'écris un roman, c'est Anicette. J'écris un roman traditionnaliste, ça me suffit bien, et laisse-moi aller, ça n'est pas ses termes, mais laisse-moi aller à mon allure, mais ce qui ne veut pas dire que Aragon ne s'impliquera pas complètement dans le mouvement Dada, à l'époque de Dada à Paris, donc à partir de 1920.
Mais Aragon va rejoindre très vite Breton et même le troisième homme.
Et Soupeau, oui, c'est certain.
Dans la critique radicale de l'activité artistique et dans l'espoir, oui. Placé en Tristan Tzara.
Exactement, oui. Et Tzara est un homme passionnant dans l'histoire. Il apparaît dans les lettres, il n'apparaît pas énormément. Mais c'est, oui, sous l'influence de Tzara et de ce qui a commencé à Zurich en 1916, le mouvement Dada, que toute la vie d'Aragon, de Breton, de Soupeau, du groupe, va être orientée en 1921, jusqu'à ce fameux procès Barrès, où ils mettent en accusation Maurice Barrès pour crime contre la sûreté de l'esprit. une belle formule. Et on n'est pas question dans les lettres, mais c'est un épisode important.
Les lettres permettent de suivre aussi leur relation par rapport à la politique, à l'action politique.
Oui. C'est l'autre volet, enfin l'un des autres volets importants. Les surréalistes viennent d'un horizon politique qu'on pourrait décrire comme l'anarchie. Aragon a une grande sympathie pour l'anarchie. Il se trouve confronté en 1925 à la politique. Il se trouve confronté à cause de la guerre du Rif, cette guerre coloniale que la France mène contre des tribus berbères révoltées, comme on dit, au Maroc, avec les moyens qui ont été ceux de la tuerie de 1914-1918, ceux que Aragon a vus à l'œuvre dans les tranchées. Les surréalistes se dressent contre cette guerre du Rif et en arrivent à se dire la solution pour la France est une solution politique et nous rallions les positions du Parti communiste français et de l'Internationale communiste. Et ça n'est pas la position d'Aragon, ça a été même d'abord celle de Breton avant celle d'Aragon, c'est celle de tout le groupe, sauf quelques-uns qui s'éloignent, Soupault par exemple, Artaud également, la position d'un soutien à l'Internationale communiste par admiration pour la Révolution d'octobre.
Aragon et Elsa Triolet vont faire le voyage à Moscou.
Oui. C'est en 1930.
En apparence, le motif est privé.
Le motif, c'est aller voir à Moscou Lili Brick, qui était la sœur d'Elsa Triolet, qui avait été la compagne de Mayakovsky. Mayakovsky vient de se suicider au début de 1930. Et donc, Aragon va à Moscou dans ce but privé et se trouve impliqué, ainsi que Georges Sadoul, qui le rejoint là-bas, se trouve impliqué dans ce qu'on a nommé ensuite le congrès de Kharkov.
C'est-à-dire qu'ils vont se faire piéger.
On peut penser que, vu l'issue, ils ont été piégés, effectivement. Mais il faudrait dire à quel niveau et comment cela s'est déroulé. Aragon et Sadoul sont recrutés comme délégués avec voix consultative à ce congrès de Kharkov. Ils y défendent ce qui est la position des surréalistes, et c'est une position que nous décririons maintenant comme gauchiste, comme sectaire. C'est une position politique qui est par exemple entièrement orientée contre Henri Barbusse en France. Et Aragon et Sadoul ont le sentiment d'avoir gagné, et effectivement, lors du congrès, ils se sont battus, Aragon s'est battu manifestement à la Commission française. Il a pris la parole au congrès, il a obtenu, ce qui quand même n'allait pas de soi dans le contexte, il a obtenu que le surréalisme soit reconnu comme l'avant-garde culturelle du mouvement révolutionnaire en France. Ça n'était pas rien. Mais avant leur départ, et on peut penser qu'est là le piège, effectivement, on leur fait signer une lettre autocritique, puisqu'ils sont membres du PC, tous les deux.
On leur dicte une autocritique.
Et le piège, c'est qu'ils ne pouvaient ni la signer, ni ne pas la signer. Ils avaient le sentiment d'avoir gagné beaucoup. On leur fait signer quelque chose qui va être inacceptable pour le groupe surréaliste, et pour Breton en particulier.
Mise en cause de Breton, oui.
Oui. Alors qu'auparavant, Breton n'était pas nommé dans les textes du Congrès. Mais ici, le second manifeste du surréalisme est pris à partie à propos du freudisme. Breton ne peut pas l'accepter. Et à propos du trotskisme, alors que Breton n'avait pas du tout à ce moment-là rejoint Trotsky. Mais il était déjà suspect. Et donc c'est de là que découlera la rupture.
Aragon va se séparer du surréalisme parce que sa responsabilité, dites-vous, sa responsabilité sociale d'écrivain lui paraît ne pouvoir s'exercer que dans le choix du Parti communiste.
Oui. Je pense que c'est un tournant essentiel et qui, je le répète, se dessinait dès 1925. Aragon prend conscience du fait que, en tant qu'écrivain, il a quelque chose à dire sur la société et qu'il doit le dire à travers, pas seul si vous voulez, mais à travers une force politique qui, pour lui, à ce moment-là, est le Parti communiste français, et l'on sait qu'il y restera, et qu'à cette époque, ça n'a pas été non plus facile pour lui d'y entrer, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est sur la base, effectivement, de ce choix que fait Aragon en 1932, finalement, c'est en mars 1932, que la rupture aura lieu.
Et Aragon finit par récuser cette fameuse autorité ombrageuse de Breton qu'il exerçait sur lui depuis le début, sur lui comme sur le reste du groupe. Mais la blessure va rester vive et souvent ressurgira.
Oui, la blessure pour l'un et pour l'autre. Breton, qui est ensuite d'une extrême sévérité contre Aragon, dit dans ses entretiens radiophoniques que cela a été une blessure pour tous les deux, et qui n'a pas fini, je ne me rappelle pas la phrase exacte. Il dit, Breton ajoute, il ne manque pas de bonnes âmes à Paris pour s'en émouvoir encore. Mais c'est vrai que c'était pour eux une rupture déchirante. Il y avait eu certainement un éloignement progressif, un changement de ton par rapport à la passion des deux premières années. Mais c'est vrai que leur lien était un lien capital au sein du surréalisme, au sein du groupe, même si Breton se permettait, avec une brutalité qu'il avait quelquefois, de malmener Aragon.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Si j'en avais le pouvoir, je ferais fusiller Aragon demain matin. Voilà ce qu'il dit, André Breton.
En 1941, ou 40-41, aux États-Unis, à une époque où des calomnies ont couru contre Aragon, Aragon était engagé dans la résistance, mais on a dit en Angleterre et aux États-Unis qu'il pactisait avec Vichy, avec le péténisme, ce qui était totalement faux. Mais c'est vrai que Aragon n'a jamais écrit à propos de Breton « Je le ferai fusiller demain matin ».
Et les relations vont tourner à l'anathème et au pamphlet, à partir de là.
Oui, à partir de là. Surtout, je crois, de la part de Breton, de Benjamin Perret, des jeunes surréalistes, des jeunes qui ont rejoint Breton après 1945, et qui ont sûrement alimenté une surenchère. Alors qu'Aragon, Aragon a rêvé, au fond, d'une réconciliation qui était impossible, mais Aragon, à la fin de sa vie, rêve, enfin, pas encore à la fin de sa vie, Breton meurt bien avant lui, mais Aragon, après les années 1960, rêve d'une réconciliation impossible, manifestement. Elle n'a pas eu lieu.
Lionel Follet a établi, présenté et annoté les lettres d'Aragon à André Breton, 1918-1931, publiées chez Gallimard. Du jour au lendemain, Jean-Richard Dufour, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir. Thank you.